La philosophie. Une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Osons la philo théâtrale, puisque nous arrivons bientôt au mois de juillet. Et bien sûr, il y a le festival, et le plus important, c'est le Festival Off d'Avignon. Donc nous avons intitulé cette émission « Au Off d'Avignon, théâtre et philosophie ». Et c'est Pierre Jouvencel, bonjour Pierre.
Bonjour Sylviane.
Qui va être notre interlocuteur, puisqu'il est à la fois auteur, comédien, producteur. Philosophe
un peut-être peu. Pas philosophe, mais disons que j'aime bien la philosophie.
Vous aimez bien la philosophie. Et puis, c'est une façon donc originale de parler de philosophie et de théâtre avec deux pièces que vous jouez donc à Avignon. Victor Hugo, un géant dans le siècle. Alors, c'est, vous l'avez créé en 2018. Moi, j'ai vu la première version avec musique. Vous l'avez affinée, améliorée. Vous l'avez tourné, joué plus de 200 fois maintenant.
230 fois, oui, à peu près. Oui.
Sans vous lasser ?
Non, non. En fait, ce qui est bien avec Hugo, c'est que je ne me lasse absolument pas. Ouais. Et puis, comme je dis souvent, Hugo est mort à 83 ans, donc j'ai encore un peu de marge.
Voilà. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas encore 70, donc vous avez des beaux jours devant vous pour faire de la philosophie, du théâtre. Et je vous avais rencontré, vous n'étiez pas encore à la retraite, mais vous nous aviez expliqué, il y a le podcast sur notre site, que vous aviez eu toujours cette passion du théâtre. Et ça doit être magnifique à la retraite de vivre cette passion.
Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai mis pas mal de temps à vraiment vivre de ma passion, mais j'y suis arrivé. Alors, c'est parti par du théâtre amateur au début, puis semi-pro, puis finalement du théâtre pro. Et aujourd'hui, effectivement, depuis 2-3 ans maintenant, je vis complètement de ma passion du théâtre.
Et puis, vous écrivez. Je pense que c'est un virus qui est très envahissant, mais c'est un bon virus. Hein. C'est-à-dire que vous avez, de Victor Hugo, vous avez écrit d'autres pièces. Oui. Maintenant, la compagnie Élégie en a 4.
Oui.
À Avignon, pourquoi vous en faites que 2 ?
Ben, j'en fais que 2 parce qu'Avignon, c'est un gros budget.
C'est
et
cher.
Comme je produis mes propres spectacles, c'était très difficile d'investir pour 4 spectacles à Avignon. Donc, j'ai privilégié les 2 seules en scène. On verra l'année prochaine si on a la possibilité de produire d'autres spectacles. Voilà, cette année, c'était très, très compliqué d'en faire plus.
C'est quoi de produire un spectacle ?
Ben, produire un spectacle, c'est assumer tous les coûts. Donc là, ce sont deux spectacles où je suis seul en scène, donc c'est déjà évidemment plus facile. Et s'il y a aussi beaucoup de seul en scène aujourd'hui, c'est parce que c'est le format qui est assez rentable finalement et le moins cher. Après, le théâtre, c'est aussi jouer à plusieurs. Donc les autres spectacles dans lesquels je joue, Les Fleurs du Jazz, on est 3. Et à feu et à cendre, ils sont 2. Là, je ne joue pas dedans. Ils sont 2. Voilà, donc bon, on essaye aussi évidemment de les faire tourner. Mais tout ça, c'est très compliqué pour une petite compagnie comme la mienne, évidemment. Hein. Il y a des compagnies qui ont beaucoup plus de moyens, mais une petite compagnie comme la mienne et qui n'a quasiment aucune subvention, aucune aide, c'est très difficile. C'est les spectacles qui arrivent à faire tourner la compagnie et c'est comme ça que j'arrive à réinvestir dans d'autres spectacles. Mais tout ça, c'est un équilibre économique et qui est même assez fragile.
Alors c'est vrai que nos auditeurs peuvent vous dire, mais on est loin de la philosophie. Alors on va revenir à la philosophie avec Victor Hugo qui... tout de même, ses obsèques nationales, la France entière.
Alors, sans être un philosophe, disons, Hugo a manié un certain nombre de concepts philosophiques, bien qu'on ne puisse pas le qualifier, évidemment, de philosophe. C'est un écrivain avant tout, mais simplement par ses combats et par tout ce qu'il a apporté, finalement. Sans doute qu'il y a un certain nombre de concepts et de choses qui peuvent se rapporter à la philosophie. Et notamment, moi, ce qui m'intéresse le plus chez Hugo, c'est son humanisme. Et c'est ce que j'essaye de faire ressortir dans le spectacle. Et d'ailleurs, c'est l'humanisme d'Hugo qui, pour moi, est au-dessus de tout.
Et c'est les textes que vous avez choisis sont toujours assez percutants, sont toujours d'actualité, malheureusement.
Oui, absolument.
Et la philosophie, souvent on dit que c'est très, très intellectuel, mais pas du tout. La philosophie, c'est aussi quelque chose qui s'attaque à la réalité.
Oui, absolument. Et donc là, dans le spectacle Victor Hugo, un géant dans un siècle, je raconte sa vie et je l'illustre à la fois par sa poésie et par les grands combats de Victor Hugo, par ses discours, notamment le discours pour l'abolition de la peine de mort. Il y a quand même là aussi une démarche philosophique là derrière. Et puis le discours sur la misère, où là, en 1849, il a été un des premiers à dire qu'il ne fallait pas faire en fait des rustines pour soulager la misère, mais il fallait détruire la misère. Et on voit aujourd'hui qu'on en est encore malheureusement très très loin de tout ça.
Et puis l'éducation.
Un autre grand combat de Victor Hugo, l'éducation. Dès 1850, il va être un précurseur des lois Ferry qui verront le jour qu'en 82. Mais en tout cas, il avait déjà tracé là aussi la voie. Il a aussi eu comme combat l'égalité homme-femme, les États-Unis d'Europe, la création des droits de l'enfant, la lutte contre l'esclavage avec Schœlcher en 48. Enfin voilà. Donc il était sur beaucoup beaucoup de sujets. Et puis il y a la philosophie d'Hugo aussi, avec toute cette idée du progrès, et qui doit être à la fois matériel, mais chez Hugo aussi le progrès spirituel, puisque les deux sont toujours liés chez lui, avec cette foi en Dieu et en même temps l'aversion qu'il avait pour l'Église telle qu'il la connaissait depuis son enfance. Il y a aussi là aussi un personnage assez atypique, on va dire, et qui a réussi à fédérer autour de lui pour que, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on arrive à des obsèques nationales avec plus de 2 millions de personnes le 1er juin 1885. Et donc, ça a été quand même un événement aussi considérable, puisque cet homme a réussi à fédérer quasiment toutes les couches de la société française.
Donc, c'est un personnage qui vous a porté, vous le refaites revivre. Et bon, moi, je vous ai vu plusieurs fois en scène. Le public est toujours captivé. Hein. On sent, et vous le ressentez, vous, en tant que comédien.
Oui, c'est un spectacle, effectivement, qui marche bien parce que, en fait, je raconte une histoire et il y a une incarnation de Victor Hugo. Et donc, évidemment, ce qu'on me renvoie maintenant, c'est que les gens ont vraiment l'impression d'être face à Hugo pendant une heure. Et effectivement, comme beaucoup de gens, quand même si on connaît Hugo que par petits bouts, on a tous quelque chose de Victor Hugo. Et donc, un poème, une rime, un morceau de discours, en fait, il y a beaucoup de choses qui parlent. Voilà, il y a un écho et qui parle à beaucoup de gens.
Et je vois qu'à la fin des spectacles, il y a toujours les spectateurs qui vous attendent.
Hein. C'est ça.
Ils veulent partager.
Oui, oui.
Alors, c'est un seul en scène, il y a très peu d'accessoires. Oui. Votre barbe est vraie, c'est pas une barbe postiche. Donc, c'est vrai que ça facilite tout de même l'incarnation.
Oui, tout à fait. Oui,
vous l'aviez avant le spectacle.
C'est vrai que ça, voilà, le fait d'incarner le personnage, un personnage comme Hugo, qui est quand même un personnage hors du commun, ça permet effectivement cette rencontre avec le public, et c'est un spectacle, c'est pour ça que je le continue, parce que c'est un spectacle d'abord, moi, qui personnellement, qui m'apporte toujours beaucoup de satisfaction et avec lequel je m'améliore sans cesse, parce que j'essaye toujours des petites nouveautés. C'est pour ça qu'on ne s'ennuie pas aussi, c'est parce que chaque fois, le théâtre, c'est ça qui est fabuleux aussi par rapport à d'autres arts, c'est que chaque jour, on remet sur le métier et chaque jour est différent. Et donc,
comment vous vous préparez, parce que c'est...
Alors, je me prépare, comme c'est un seul en scène et qu'il y a quand même beaucoup de textes, j'aime bien prendre un peu de temps avant de jouer. Il y a des comédiens qui rentrent sur scène et ils jouent. Moi, je sais que, alors, quand je joue avec d'autres comédiens sur des spectacles où j'ai moins de textes, ça ne me pose pas tellement de problèmes de ne pas avoir de concentration. Sur des seuls en scène, j'aime bien rentrer dans le personnage un peu avant, me mettre en condition et être sûr à peu près que je vais pouvoir dire le mieux possible ce texte. Parce que c'est un texte quand même qui est chargé.
Qui est chargé,
que ça demande beaucoup de concentration aussi au spectateur. Mais je pense...
C'est pas difficile à suivre.
Voilà.
Hein,
non, c'est pas difficile, parce que je raconte vraiment une histoire. Donc, une fois qu'on est rentré dans le début de l'histoire, en général, on va jusqu'au bout.
Jusqu'à la fin.
Et je vois même avec les collégiens, ça marche aussi.
Oui, alors justement, ces collégiens, ils découvrent Victor Hugo. Enfin, je suppose que leurs enseignants les ont un peu préparés, les ont...
Alors, on a plusieurs formules, mais souvent, le mieux, c'est effectivement quand je peux avoir eu cette discussion avec les élèves avant et que les enseignants ont fait une partie du travail. Il arrive des fois, on n'a pas le temps vraiment, donc ils vont voir le spectacle et puis on a des questions-réponses après. C'est toujours un peu plus difficile parce que du coup, ils découvrent le spectacle, donc c'est un peu brut pour eux.
Et puis je vois, vous êtes présent sur les réseaux sociaux et vous êtes parfois dans des salles, presque des gymnases. Et c'est compliqué parce que moi, je vous ai vu à Avignon dans des petites salles très intimes. Là, vous jouez, je crois qu'on ne l'a même pas dit, vous jouez au Théâtre des 3S, rue Buffon.
Rue Buffon, au 4 rue Buffon,
Au 4 rue Buffon. Vivant. Et Victor Hugo, c'est du 5 au 26, oui, les jours pairs.
Absolument.
Donc, il suffit de savoir compter 2, 4.
Voilà.
Et relâche le lundi. Et les humanistes, c'est les jours impairs. Donc, vous faites comme ça une balance entre les deux.
Oui, avec un spectacle qui tourne depuis plusieurs années. Mmh. Et puis, la nouvelle création.
Si je voulais vraiment faire une émission de philo sur Victor Hugo, je crois que j'aurais pris l'engagement politique. Mmh. Philosophie et engagement politique.
Ouais,
et
ouais.
Cet engagement politique, il vous correspond aussi.
Oui, il me correspond aussi. Ben, moi, j'ai eu, à une époque, j'ai eu aussi un engagement dans la vie politique, vraiment dans la vie de la cité. Bon, j'ai eu quelques responsabilités politiques à l'époque, mais c'est vieux tout ça. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, j'aime les artistes qui s'engagent aussi. Mmh. Et d'ailleurs, Hugo avait ce côté-là par rapport à d'autres artistes du 19e siècle. Je pense à Gautier, qui était son ami, et pour lesquels l'art devait être quelque chose d'à part, et en tout cas l'artiste ne devait pas se mêler de la vie de la cité, c'était deux choses complètement, complètement différentes. Hugo justement a toujours contesté cette position-là et a toujours considéré que le fait d'être engagé ne faisait pas en sorte que l'art soit repetissé, mais qu'au contraire, ça ne pouvait que agrandir finalement l'artiste et son projet. Et donc ça a toujours été un artiste très engagé dans son siècle et aussi dans tous les combats de
dans
son
ses
siècle
actions,
voilà,
oui.
et dans toutes ses actions. Donc la peine de mort, le combat contre la misère, l'éducation, le combat pour la paix et la fraternité. Enfin, tout ça, c'est des combats majeurs de Hugo. Et en fait, derrière tout ça, il y a l'humanisme de Victor Hugo, le fait que c'est quand même un héritier des Lumières et un héritier aussi de tout ce courant humaniste de la Renaissance porté par Erasme, par Montaigne notamment.
Voilà. Donc, ce n'est pas étonnant qu'après, vous soyez mis à l'écriture d'une pièce qui s'appelle Humaniste. Vous avez le petit livre là. C'est une édition
C'est une auto-édition. En fait, les pièces, je les fais en auto-édition. Donc, il y a la pièce sur Victor Hugo qui est en auto-édition. Et cette pièce d'Humaniste aussi. Parce que souvent, les gens aiment bien, comme c'est quand même des spectacles très, très écrits.
Oui. Les relire.
Gens, voilà.
Les
et puis, relire. Ils aiment bien les relire parce que souvent, dans une heure, 1h10, c'est un petit peu difficile de absolument tout capter. Donc
on
les
a
gens
le choc, mais en même temps, on ne se souvient pas de tout.
Voilà, on ne se souvient pas de tout. Et donc, c'est intéressant de pouvoir les relire. Voilà.
Alors, nous, comme pause musicale, dans ce 11-11 la philo un peu spécial, théâtre, philosophie, art et engagement, vous avez choisi John Lennon Imagine.
Ouais.
Pourquoi ?
Parce que je pense qu'on est à un moment aussi de la vie dans la société française où on a un peu besoin d'un nouveau souffle et de respirer. Le monde est quand même angoissant, de plus en plus angoissant. Je crois que tout le monde est complètement pris par les nouvelles qu'il entend chaque jour à la radio, à la télé, dans les journaux, sur Internet. Et j'ai envie de imaginer. Me paraissait être vraiment la chanson que j'avais envie d'entendre, un autre monde et un monde plus humain et un monde plus humain, voilà. et voilà, on a besoin de ça, je crois. On a besoin de ça.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Thank you.
Sur Radio Alliance Plus, après la voix de John Lennon Imagine, choisie par Pierre Jouvencel, que nous recevons dans ce Osons la philosophie intitulé Le Hof d'Avignon, théâtre et philosophie, nous avons parlé de votre pièce donc Victor Hugo, un géant dans le siècle, qui passe au théâtre des 3S, donc les jours pairs pendant le festival, du 5 au 26, donc en fait du 6 au 26. Et on a parlé beaucoup d'humanisme, on a parlé de votre écriture. Donc voilà, là c'est une création humaniste.
C'est une création.
Vous ne l'avez pas du tout joué.
Alors je l'ai joué juste une première fois à Montpellier pour le tester au Théâtre Beaux-Arts Tabar fin mai. Bon, ça s'est très bien passé, donc je suis assez content.
Une heure
donc,
à peu près,
c'est un peu plus d'une heure, il dure 1h10. Et donc là on va vraiment le créer à Avignon. Alors. En fait, je suis parti justement de cette réflexion. De l'assassinat de Samuel Paty, en fait, parce que j'ai été très marqué, comme tout le monde, je crois. Hein, j'ai été complètement ébranlé par l'assassinat de Samuel Paty, qui faisait écho quand même à cette entrée dans le 21e siècle avec le 11 septembre, où on a vraiment pris en pleine face le fait qu'il y avait une autre des choses auxquelles on n'avait pas pensé pendant tout le 20e siècle. Moi, je suis né dans la deuxième moitié du 20e siècle, et finalement, quand on réfléchit un peu, je suis né dans un monde qui était un monde sans guerre en Europe, un monde relativement insouciant, un monde qui avait vécu les Trente Glorieuses, un monde où on ne parlait pas encore avec autant d'acuité de la crise écologique, on ne parlait pas on n'avait pas cette angoisse que nous connaissons aujourd'hui. Effectivement, on espérait avec l'arrivée d'Internet, de la connaissance pour tous, que finalement tout ça permettrait à l'homme et à l'individu de pouvoir s'élever, d'aller faire le rêve qu'avait Hugo, hein, d'élever le peuple par l'éducation. Et finalement, on a démarré ce 21e siècle par les tours. Et puis ensuite, on a eu les attentats de Charlie. Et puis on a eu le 16 octobre 2020, l'assassinat par décapitation de Samuel Paty à proximité de son établissement scolaire. Et moi, ça m'a tellement ébranlé. Et c'était tellement à l'encontre de tout ce à quoi je crois. Il m'a fallu vraiment un gros temps pour réagir à tout ça. Et puis, j'ai eu ce besoin de dire non, on peut s'en sortir que par l'humanité qu'on va pouvoir transmettre. Et moi, je suis un héritier, je me sens comme un héritier des Lumières, un héritier, quand je parle, si j'ai pris Hugo, c'est pas pour rien. Je suis j'aime Voltaire, Diderot, Rousseau, je suis très, très marqué par toute cette période-là, et par le fait que les Lumières aussi ont amplifié le mouvement humaniste de la Renaissance. Pour moi, il y a eu un grand mouvement à la Renaissance, qui est venu notamment par l'Italie, qui a permis de déconstruire l'image du Moyen-Âge et faire en sorte que l'homme était placé au centre du monde sans remettre en cause l'existence de Dieu. Ils ont réussi ce tour de force, les humanistes, c'est-à-dire qu'ils ont mis l'homme au centre du monde et au centre de la société sans remettre en cause l'existence de Dieu. Et ça, c'était pour moi assez incroyable, ce mouvement repris par les Lumières. Et je me sens comme un héritier de ce mouvement qui prône l'éducation, l'égalité, la justice, la fraternité entre les hommes. Et je pense qu'on ne peut pas s'en sortir autrement. Et donc, je me suis dit, finalement, je m'aperçois en intervenant dans les collèges, dans les lycées, que beaucoup d'enfants ne connaissent pas notre histoire. Mmh. Et donc, j'ai décidé, à partir de ce drame qui est l'assassinat de Samuel Paty, de reprendre le cours de notre histoire et de développer les grands discours humanistes de la Révolution jusqu'au XXe siècle. J'ai voulu rester dans l'histoire pour ne pas être sur dans un combat politicien, parce que ça n'avait pas de sens. Je fais du théâtre, je ne suis pas sur une tribune politique.
Et tout de suite sous une forme théâtrale ?
Alors c'est sur une forme théâtrale, mais on est plus dans un style un petit peu one man, c'est-à-dire que je suis avec le public, et je prends le public à témoin, et évidemment ce n'est pas les discours complets, je ne donne que des extraits de discours, parce que sinon le spectacle ferait plus de 3 heures. mais en tout cas, j'essaye de donner des grands axes qui permettent de comprendre pour comment cette République s'est construite et comment on en est arrivé au point où nous en sommes aujourd'hui.
Donc vous interpellez le public ?
Je discute un petit peu avec lui, je lui tends quelques perches pour qu'il me donne un certain nombre de noms et voir un petit peu si...
Et vous, ça vous facilite pour...
Voilà.
Parce qu'on parlait de Victor Hugo, là, c'est pas la même façon d'aborder.
Disons que là,
le comédien n'est pas le même.
Dans Victor Hugo, j'incarne Victor Hugo et là, je m'incarne moi.
Et oui,
c'est moi qui parle. En fait, là, c'est moi qui suis en première ligne face au public et à la fois, je raconte mon mal-être et la raison pour laquelle je suis face à lui, et donc j'essaye de reprendre avec lui le fil de l'histoire, mais par contre les discours, effectivement, je me mets dans la peau des personnages pour dire les discours.
Mais là aussi, on parlait d'engagement de l'artiste, là aussi c'est très philosophique, hein. L'humanisme est un mouvement philosophique. Alors je vois votre petit livre, vous avez dû avoir beaucoup de mal à choisir tout de même.
Oui et non, parce qu'il y avait, enfin pour moi, il y avait quelques grands marqueurs. Donc, je voulais d'abord parler de l'égalité homme-femme, parce que ça me paraissait être évident. Et il se trouve que les grands écrivains des Lumières avaient complètement oublié l'histoire de la femme. Hein. Donc,
elle était
invisibilisée, hein, de toute façon.
C'est
Olympe de Gouges, finalement, qui va être la première à prôner l'égalité homme-femme dans sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et elle va mourir sur l'échafaud sous la terreur. Mais pour moi, elle reste vraiment une icône des droits de la femme, et ce qui m'a permis de raconter un petit peu cette histoire aussi du féminisme, de ses premiers pas du féminisme. Et si les femmes en sont aujourd'hui, bon, il y a encore du chemin à faire, mais bon, les avancées quand même sont assez importantes. Et elles le doivent beaucoup à Olympe de Gouges quand même.
Mais je vous imagine en train de créer cette pièce, ça demande déjà beaucoup de connaissances. Et puis un esprit de synthèse, et puis faire des coupes.
Oui, bien sûr.
Ça doit être très frustrant.
Bien sûr, il faut faire beaucoup de coupes. Entre la première version et la version aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de coupes, mais ça, c'est indispensable.
Et
pour
Hugo,
j'avais fait des coupes aussi. Hein.
Quand vous l'avez joué, là, vous avez l'impression que
j'ai l'impression que là, à un
bon dosage.
Oui, j'ai l'impression que là, je suis arrivé à un bon dosage. Ouais.
Mais ça va évoluer au fil.
Sans doute que le spectacle va encore évoluer, bien sûr. Si je regarde ce qui s'est passé avec Hugo, le spectacle avait beaucoup bougé. Donc,
Oui. Pardon, je peux vous demander peut-être de lire un extrait avec cette belle voix que vous avez.
Si vous voulez, je peux vous lire ou vous dire le texte de Jaurès, qui est un texte qui me plaît énormément. C'est la lettre aux instituteurs, parce que je pense que le combat majeur, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est l'éducation. Pour moi, c'est vraiment le combat majeur. Et donc, j'ai choisi ce texte de Jaurès. On aurait pu choisir sur Jaurès bien d'autres textes, mais ce texte me plaisait parce que je trouve qu'il dit exactement ce que c'est la question de la transmission. La transmission, qu'est-ce qu'on doit transmettre aux enfants ? Et je m'aperçois, malheureusement, quand je passe dans les collèges, et ce n'est pas les enseignants qui sont en cause, mais que souvent, cette culture que moi j'avais acquise et que nous avons, nous les boomers, un peu plus ou moins acquis, effectivement, à l'école, cette culture générale, elle manque profondément. Et donc, Jaurès explique comment on peut transmettre finalement la flamme. Et donc voilà. Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsable de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés n'auront pas seulement à écrire et à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin d'une rue, à faire une addition et une multiplication. Ils sont français et ils doivent connaître la France, sa géographie et son histoire, son corps et son âme. Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu'est une démocratie libre. Quels droits leur confèrent, quels devoirs leur imposent la souveraineté de la nation. Enfin, ils seront hommes. Et il faut qu'ils aient une idée de l'homme. Il faut qu'ils puissent se représenter à grands traits l'espèce humaine, domptant peu à peu les brutalités de la nature et les brutalités de l'instinct, et qu'ils démêlent les éléments principaux de cette œuvre extraordinaire qu'on appelle la civilisation. Il faut leur montrer la grandeur de la pensée. Il faut leur enseigner le respect et le culte de l'âme. Et quoi, tout cela des enfants ? Oui, tout cela. Si vous ne voulez pas seulement fabriquer des machines à épeler. Je sais bien quelles sont les difficultés de la tâche. Vous gardez vos écoliers peu d'années et ils ne sont point toujours assidus, surtout à la campagne. Et je plaindrai ceux d'entre vous qui ont pour les enfants du peuple une grande ambition, si cette grande ambition ne supposait un grand courage. Seulement pour cela, Il faut que le maître lui-même soit tout pénétré de ce qu'il enseigne. Il faut qu'il se soit fait en silence une idée claire du ciel, du mouvement des astres. Il faut qu'il se soit émerveillé tout bas de l'esprit humain, qui, trompé par les yeux, a pris tout d'abord le ciel pour une voûte solide et basse, puis a deviné l'infini de l'espace et a suivi dans cet infini la route précise des planètes et des soleils. Alors, et alors seulement, lorsque par la lecture solitaire et la méditation, il sera tout plein d'une grande idée et tout éclairé intérieurement, il communiquera sans peine aux enfants la lumière et l'émotion de son esprit. Les enfants ont une curiosité illimitée et vous pouvez tout doucement les mener au bout du monde. Il ne faut pas craindre de leur parler avec sérieux, simplicité et grandeur. Je dis donc au maître, lorsque vous aurez appris aux enfants à lire à fond, et lorsque, en quelque causerie familière et grave, vous leur aurez parlé des choses qui intéressent la pensée et la conscience humaine, vous aurez fait sans peine en quelques années œuvre complète d'éducateur. Dans chaque intelligence, il y aura un sommet, et ce jour-là, bien des choses changeront.
Et ce jour-là, on ne peut que l'espérer. Mais...
On ne peut que l'espérer.
Mais c'est vrai que dans le contexte actuel...
On en est un peu loin, donc j'avais envie de donner à entendre ce texte.
Donc vous apprenez par cœur ce texte.
Oui, je connais tous les textes par cœur, bien sûr.
Donc bravo à vous, Pierre Jouvencel, donc auteur, comédien, producteur, qui a géré avec moi cette émission « Osons la philosophie » un peu particulière, mais je pense qu'il se justifie tout à fait, au Off d'Avignon, entre théâtre et philosophie. Art, culture,
ouais,
éducation. Merci à vous. Je rappelle, vous êtes au théâtre des 3S du 5 au 26 juillet pour deux pièces, Victor Hugo et Humaniste. On va sur votre site, la Compagnie Élégie.
Voilà.
Vous êtes très présent sur
Compagnie
les réseaux.
Compagnie Élégie, on est très présent sur les réseaux. Ou Pierre Jouvencel, comédien, sur Instagram et sur Facebook.
Voilà. Et ben, merci à vous et très bon festival.
Et ben, merci Sylviane, merci beaucoup.